Eh bien, maintenant, Jean-Michel Tobelen va nous faire entrer plus précisément dans l'économie des musées.
Merci. Françoise, est-ce que ça marche là ? Ouais, d'accord. Longtemps, comme ça a été rappelé, comme nombre d'institutions culturelles, le secteur des musées et du patrimoine est resté éloigné du monde de l'économie, du fait que l'essentiel du financement était assuré par les collectivités publiques. À cela s'ajoutaient des recettes de billetterie, mais qui restaient à un niveau relativement modeste, du fait que les prix d'entrée étaient fixés à un niveau limité, notamment pour des raisons d'accessibilité au plus grand nombre. Puis est arrivée, comme cela a été mentionné, l'arrivée du grand tourisme international, qui a fait prendre conscience des retombées possibles, économiques possibles du tourisme culturel, dans lequel, nous le savons, les musées, les monuments, les sites archéologiques, les centres d'interprétation, à quoi on peut ajouter les centres historiques ou les villages pittoresques, jouent un rôle essentiel. On a bien vu à ce moment-là qu'il existait une demande solvable pour divers types de services pouvant être proposés aux visiteurs. Donc les visites guidées, les audioguides, tout le développement commercial à travers les boutiques, les restaurants ou autres cafétérias, sans oublier, plutôt pour le domaine des entreprises, la location d'espace pour des soirées par exemple, et le tournage de films. Alors, c'est amusant de constater, comme on l'a déjà dit effectivement, que dès les années 80, on a célébré les noces de l'économie et de la culture, on a promu la notion d'entreprise culturelle, ce qui m'apparaît, en ce qui me concerne, presque un oxymore. Du moins, il faut introduire une distinction ici, s'agissant de la partie sans but lucratif du monde de la culture, hein, puisque et qui concerne donc ce secteur à but non lucratif, les musées, un certain nombre de monuments, les bibliothèques, les centres d'archives, les conservatoires de musique et de danse, la plupart des théâtres municipaux, les centres culturels, etc. Et ceci par opposition, bien que ça fasse partie du grand tout de la culture, par opposition avec les maisons d'édition pour le livre, les compagnies de disques pour la musique, et puis les sociétés commerciales pour la télévision, le cinéma ou la vidéo. Alors, on n'a peut-être pas encore mentionné, me semble-t-il, l'apparition à ce moment-là aussi, dans les années 80, du mécénat d'entreprise, avec des débuts, il faut l'avouer, un peu modestes, et qui reste, avec un essor qui reste relativement limité aujourd'hui, et d'autant plus avec la crise que nous venons de vivre, bien que le changement qui est intervenu porte sur une fiscalité qui aujourd'hui est très avantageuse, et certains avancent que ça serait peut-être la plus avantageuse dans le monde. Et il faut rappeler que ça touche pas seulement les entreprises, mais aussi les fondations et les particuliers. Et là, je pense qu'on reviendra sur cette idée du rapprochement avec le modèle anglo-saxon, où nous le savons, la philanthropie individuelle joue un rôle essentiel. Donc il y avait dans ces évolutions-là, dont nous venons de parler, un rapprochement entre la logique culturelle et une logique qu'on pourrait qualifier d'entrepreneuriale, qui a été encore renforcée ces dernières années par la création d'établissements publics. Alors j'emploie le terme au sens juridique du terme, donc l'établissement public, c'est-à-dire des établissements dotés d'une autonomie budgétaire et de la personnalité morale ou de la personnalité juridique, avec leur propre conseil d'administration et des objectifs qui sont en principe fixés en commun entre l'institution culturelle et la tutelle, notamment le ministère de la Culture, si vous voulez, pour les musées et les monuments, dans le cadre de contrats qui sont dits, d'ailleurs c'est pas sans intérêt, contrats de performance et de moyens. Donc on retrouve là le mot de performance qui a été mentionné précédemment. Et de là aussi des choses un petit peu surprenantes, d'une certaine manière, comme l'émergence du contrôle de gestion, des critères d'évaluation, du marketing aussi, je ne sais pas si c'est un mot qui a été prononcé, et de la collecte de fonds dans un secteur qui, on l'a dit, jusqu'à présent, avait été relativement protégé de l'irruption du langage économique et gestionnaire. Alors, en ce qui me concerne, on pourrait tout à fait admettre que ces techniques de gestion peuvent constituer, en tous les cas potentiellement, des instruments fort utiles de pilotage de ces organisations devenues complexes et dont on peut estimer là aussi qu'elles ne peuvent se développer sans la capacité à se doter d'une vision stratégique à moyen et à long terme. Et là, de nouveau, l'économie et la gestion ont un rôle à jouer. Mais et c'est là, j'ai entendu une petite restriction, c'est que cette familiarité naissante avec le monde de l'économie et de la gestion peut aussi donner lieu, dans certains cas, on a le phénomène de l'enthousiasme des nouveaux convertis, à un certain nombre de dérapages ou de dérives dont nous gratifie l'actualité. Alors pour faire image, hein, et sans prendre des exemples précis, autour de nous, donc des expositions qui ont un contenu scientifique parfois un petit peu incertain, une recherche échevelée de la médiatisation, des prix d'entrée qui sont parfois fixés à un niveau qui me semble peu raisonnable, et puis aussi l'acceptation du principe aujourd'hui de plus en plus de l'allocation d'œuvres. Et là, c'est amusant de constater que quelqu'un comme Philippe de Montebello, qui est l'ancien directeur du Metropolitan Museum de New York, a pris position contre cette nouvelle orientation. Et puis aussi, j'ajouterais, des relations qui sont parfois pas très claires entre les institutions et les donateurs ou les mécènes, les sponsors, avec le risque dont on pourrait penser qu'on aurait pu être épargné, le risque parfois de conflit d'intérêts. Voilà. Alors nous en sommes là aujourd'hui, me semble-t-il. On a l'économie pèse de tout son poids pour encadrer la marche des institutions culturelles dans leurs impératifs de recherche de financement, compte tenu, cela a été rappelé, du caractère désormais un peu étriqué des budgets publics à tous les niveaux, hein, au niveau local, régional ou départemental ou national. Alors, pour être juste, il me semble que le management public, pour autant qu'il soit mis au service des institutions culturelles, peut se révéler tout à fait utile pour en garantir la pérennité, à condition d'en faire un usage raisonné et respectueux de leur mission. Alors, cette irruption de l'économie est aussi liée au fait que la question du développement local et du tourisme urbain a mis au premier plan précisément les retombées que l'on pouvait attendre de l'activité des musées et des monuments. Mais nous le savons, cela a été rappelé précédemment par Françoise Benamou, qu'il faut être très prudent à l'égard des retombées économiques qui, en tout état de cause, et c'est ça le point décisif, me semble-t-il, ne se produit pas dans les institutions elles-mêmes, mais dans leur environnement, ce qui suppose effectivement une vision globale de ces perspectives de développement, c'est-à-dire très concrètement dans l'hôtellerie, la restauration, les transports ou le commerce. Alors, une autre évolution que je mentionnerai, qui peut aussi susciter des débats, c'est celle qui consiste à laisser à penser que du coup, les conservateurs, dans le cas des musées ou des monuments, ne seraient plus tellement à leur place à la tête des institutions culturelles et qu'il conviendrait de les remplacer par des administratifs ou des gestionnaires. Et là, je ne prendrai pas d'exemple, on en a autour de nous. Alors, je ne partage pas nécessairement ce point de vue parce que, en réalité, quand bien même on prendrait l'exemple des États-Unis d'Amérique, on s'aperçoit que les grandes institutions muséales états-uniennes sont dirigées par des scientifiques ou conservateurs, comme vous préférez, en tous les cas des spécialistes de la discipline concernée, mais qui sont bien évidemment secondés et entourés par des spécialistes de la gestion du commerce, des finances ou des ressources humaines. Oui, tout à fait. Alors, on a une influence croissante, hein, au-delà des aspects économiques, une influence des perspectives de marché qui touche y compris, donc, non pas seulement le marché de l'art, hein, mais y compris d'institutions patrimoniales, à travers les grandes expositions, à travers le tourisme international, à travers les boutiques dont nous parlions tout à l'heure. Ce qui conduit, là encore, à une autre interrogation qui concerne la formation des professionnels à ces nouvelles dimensions de leurs activités et ce qui conduit aussi, observons-le, dans le cas des collectivités locales, à la perspective de délégation de services publics qui consiste à se dire, finalement, confions l'exploitation du musée ou du monument à des structures privées, parfois à vocation commerciale, ce qui peut poser des problèmes. Alors, convenons d'une certaine manière, pour en revenir au point que je soulevais précédemment, de la direction des institutions culturelles, qui me semble plus aisé de former des professionnels de la culture à l'économie ou à la gestion ou au management que l'inverse. Et puis, s'agissant des sources de financement privé, je crois qu'il faut aussi être conscient, on a un petit peu de recul aujourd'hui, pour voir que le financement privé, en tous les cas venant des entreprises, ne se substituera pas à un retrait de la puissance publique. Alors, pour conclure, je dirais que la rentabilité des investissements culturels, il faut le souligner, me semble-t-il, sont principalement éducatifs et sociaux, même si, bien entendu, dans le même temps, il convient de rappeler que les apports qu'elles suscitent ne sont pas sans intérêt du point de vue de notre balance commerciale, du point de vue de nos exportations liées par exemple au secteur de l'agroalimentaire, de la mode et du secteur du luxe qui ont un lien avec la culture. Alors ma dernière phrase serait pour dire qu'il ne faudrait peut-être pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire il conviendrait d'apprivoiser à bon escient la dimension économique et managériale des institutions culturelles et surtout de mettre ces savoir-faire au service des missions qui sont principalement, à mon sens, scientifiques, pédagogiques et sociales, des musées, des monuments et des institutions culturelles en général. Je vous remercie de votre attention.
Merci. Merci beaucoup, Jean-Michel. Alors, Pierre-Jean Bengozy, tout de suite. C'est bon, tu peux y aller.
Oui, merci Françoise, merci pour cette invitation. Alors effectivement un sujet un peu difficile et tu citais la conclusion du Guépard, il faut faire en sorte que tout change pour que rien ne change. Dans le secteur de la culture, on a plutôt l'impression que la phrase est souvent renversée, qu'on est souvent dans un contexte où comment faire en sorte pour que surtout rien ne change alors que tout change à l'extérieur et les enjeux aujourd'hui du numérique posent un peu finalement la question dans ce sens. Alors Pierre-Michel a rappelé tout à l'heure l'actualité hein, de la notion d'industrie créative liée justement à ce renouvellement, au renouveau lié de l'environnement. À la fois dans l'intégration de plus en plus forte des problématiques de connaissance, de conception. Et finalement, l'idée que l'innovation, la création de produits nouveaux, de contenus nouveaux peut être une solution à la crise économique. La dématérialisation liée aux produits, tu citais l'exemple du livre dont le passage du livre physique au livre numérique s'accompagne d'une transition d'un produit à un service culturel. Et puis les pratiques elles-mêmes des consommateurs, on ne le dit pas assez, on l'a pas souvent dit à propos de la musique, mais un des effets de la numérisation de la musique, ça a été qu'on n'a jamais probablement autant écouté de musique qu'on ne le fait aujourd'hui, avec une multiplication considérable des temps d'écoute. On l'avait déjà observé historiquement sur la télévision, c'est encore plus fort sur la musique. Donc un changement des pratiques, parce que quand on écoute de la musique tout au long de la journée, les processus de choix, l'économie même de l'acquisition des disques ou des CD n'est pas du tout la même. On ne peut pas acheter autant de musique que ce qu'on consomme ou que ce qu'on peut consommer. Donc les problèmes de la gratuité, mais de la forfaitisation ou de la diminution des prix se posent indiscutablement parce qu'on écoute beaucoup plus de musique auparavant et qu'on ne peut pas tout payer. Et donc des structures de marché qui se redéfinissent avec l'apparition de nouveaux acteurs, le rôle de plus en plus fort des fournisseurs de technologies, le développement de nouvelles formes d'intermédiation, j'y reviendrai tout à l'heure, et le poids de plus en plus fort de l'aval des filières, des processus de distribution, j'y reviendrai également. Alors, une fois qu'on a posé le tableau de ces changements, finalement, quelles sont les caractéristiques importantes à garder en tête des contenus culturels? Moi, j'en vois trois par rapport à ce qu'on peut retrouver dans les secteurs industriels plus classiques. Le premier, c'est la variété des productions et leur qualité. Dans le secteur automobile, quand vous achetez une Twingo ou une BM d'un autre côté, il y a une différence de prix, mais qui se retrouve d'une certaine façon dans une différence de qualité. Quand vous allez acheter un livre ou quand vous allez voir un film de cinéma, vous allez payer le même prix pour des œuvres dont les coûts de production ont été considérablement différents dans certains cas. et sans que, au niveau du consommateur, les différences de coût, les différences de qualité ne se traduisent par des différences de prix. Donc on a une, à la fois une très très forte variabilité de la nature des œuvres et d'autre part des modes de tarification, de consommation qui sont souvent déconnectés des structures de coûts associées. Deuxième élément, je développe bien entendu pas tous les points, deuxième élément important dans ces caractéristiques des contenus culturels pour moi, c'est les modalités de coopération de la conception. Pierre-Michel en a un tout petit peu parlé tout à l'heure. La production d'œuvres n'est pas simplement le fait d'un auteur, d'un producteur ou d'un directeur artistique, c'est une œuvre de coopération, mais qui pose des questions importantes, à savoir comment tous ces contributeurs collaborent, qui est le plus important, qui va donner sa signature, son nom, comment rémunérer ces différentes contributions, quel est le poids et l'importance du producteur ou de l'éditeur qui va assurer la mise en musique, entre guillemets, de toutes ces contributions et qui va l'organiser. Donc toute une série de contraintes sur les marchés, sur le marché de l'emploi finalement, mais dont on a déjà parlé tout à l'heure. Et puis troisième point qui me semble important, c'est les niveaux de risque. Hein, le secteur culturel est probablement un des secteurs qui connaît le niveau de risque le plus important. On peut avoir fait 10 succès en termes de films, de cinéma, etc. On n'est pas sûr que le film suivant, le livre suivant, la musique suivante ne soit pas un échec. Houellebecq a le prix Goncourt, un magnifique succès de librairie avec son dernier ouvrage. Personne n'est prêt à garantir que son ouvrage suivant ne fera pas un flop, malgré toute la notoriété et la politique de promotion. On a cette incertitude radicale, alors qui a des conséquences, à la fois parce que l'économie de la culture est une économie très spéculative, d'autre part parce que, à travers les droits de propriété intellectuelle, mais aussi d'autres mécanismes d'incitation, on a besoin de savoir adapter les modes de rémunération et de contribution à cette prise de risque et à cette incertitude sur les revenus associés. Alors, dans ce contexte un peu général, ce qui est intéressant de voir, c'est que l'évolution du secteur de la culture, finalement, s'est très largement nourrie de l'Internet, d'une part, mais a également nourri lui-même le développement de l'économie de l'Internet. C'est pour ça que je reprends très volontiers l'expression que donnait François tout à l'heure, à savoir la culture est un laboratoire de l'économie qu'on voit aujourd'hui autour de ce qui se passe dans les industries culturelles, l'expérimentation de solutions, de modèles qui ont tendance ensuite à se déployer de plus en plus dans les autres secteurs industriels. Première illustration un peu de cette expérimentation, de ce phénomène, c'est la multiplication considérable de l'offre. À la fois le basculement des produits au service, la dématérialisation et l'effet mécanique d'accumulation des biens, puisqu'une fois qu'on est sur qu'on a dématérialisé, qu'on a numérisé, on peut garder quasiment indéfiniment les contenus accessibles. Donc on a une démultiplication considérable de l'offre proposée qui pose des questions sur les mécanismes de choix. Comment choisir dans une profusion de contenus qui sont accessibles, d'où l'importance des moteurs de recherche, d'où l'importance des mécanismes de recommandation, de prescription. C'est-à-dire, on parle souvent des secteurs de la musique, de l'audiovisuel. Il y a des secteurs qui ont déjà complètement basculé, et je pense notamment à celui de la photographie, hein, où on n'a pas le temps de rentrer dans le détail, mais le marché de la photographie de presse ou de la photographie magazine, par exemple, l'illustration ou la photographie scientifique, est complètement bouleversé, voire atone, avec des modes complètement alternatifs de production de photographie. Deuxième élément important dans ces nouveaux modèles d'affaires qui se nourrissent de l'Internet ou qui nourrissent l'Internet, c'est ce qu'on appelle parfois les économies de plateforme, à savoir le développement d'une forme d'intermédiaire qui assure à la fois l'agrégation des contenus ou l'agrégation des informations sur ces contenus et qui va nourrir également les informations de choix, de prescription, de recommandation. Donc un mécanisme un peu conjoint à la fois de distribution d'un côté et puis d'information, d'orientation, de guide sur ces contenus. Ça peut être à la fois à travers des sites assez classiques comme YouTube, Dailymotion, qui vont à la fois agréger des millions de vidéos et en même temps fournir des outils pour aller se retrouver, chercher les vidéos qu'on recherche, mais ça peut être aussi fait de façon complètement automatique à travers des moteurs de recherche, par exemple. Troisième élément sur lequel je reviendrai un peu tout à l'heure rapidement, c'est également la concurrence par les modèles d'affaires. Aujourd'hui, on a un peu le sentiment, et c'est presque paradoxal dans une industrie qui est justement très très fortement marquée par sa capacité de création, de conception, de développement de nouvelles formes artistiques, esthétiques, etc. Où aujourd'hui, l'innovation porte plus sur les moyens de vendre les contenus que sur les contenus eux-mêmes. L'exemple de la musique est caractéristique de ce point de vue-là. On peut compter des milliers de sites de téléchargement. D'accès à de la musique, hein, du streaming, du téléchargement, de l'échange, du gratuit, du payant forfaitaire, du payant partiel, etc. Et l'effort aujourd'hui des producteurs, des éditeurs de sites est plus dans quel va être le bon modèle économique, la bonne forme de transaction, plutôt que allons choisir les bons musiciens, les bons auteurs, les bons artistes pour créer une position concurrentielle, compétitive, à partir de ma qualité éditoriale, alors qu'aujourd'hui, la position compétitive, elle est construite à partir de la pertinence ou de la sophistication du modèle économique. Alors, tout ça soulève des questions concrètes, je ne rentrerai pas dans le détail de toutes. Première question, c'est comment protéger et stimuler la production de contenu, à la fois face à cette énorme offre disponible, qui rend impossible la mise en œuvre des modes traditionnels de rémunération à travers le droit d'auteur, mais qui crée également des frontières très très poreuses entre l'amateur et le professionnel. Je parlais de l'exemple de la photographie tout à l'heure, ou de la musique, c'est un des cas. Deuxième élément, comment favoriser à la fois la production de contenu et la consommation de contenu culturel ? Problème de soutenabilité de ces modèles économiques. Est-ce que finalement, ce qu'on voit aujourd'hui se mettre en place, par exemple dans l'audiovisuel avec YouTube, permet de soutenir durablement la création de nouveaux formats de vidéos, sur des formats courts, sur des formats alternatifs, éventuellement pédagogiques, etc. Et comment assurer de nouvelles formes de professionnalisation où l'entrée dans le métier ne se traduit pas forcément par les étapes traditionnelles des carrières artistiques. Et puis, dernier élément également très important, comment stimuler les investissements technologiques dans un secteur qui est très très largement dépendant des tuyaux de télécommunication, hein, de la circulation qui permet d'avoir accès à Internet, à du ultra haut débit, de l'accès rapide à des contenus en ligne. Comment faire en sorte que ces tuyaux puissent bénéficier d'une évolution technique et que ceux qui gagnent de l'argent sur ces tuyaux, à savoir les vendeurs les intermédiaires que j'évoquais tout à l'heure, puissent contribuer éventuellement à leur financement. Tout le débat sur la net neutralité, hein, la neutralité de l'Internet qu'on entend depuis quelques mois, porte justement très très clairement sur cet arbitrage entre les investissements techniques d'un côté et les investissements sur les plateformes de distribution de l'autre côté. Alors, ce panorama, dressé très rapidement, génère bien entendu des phénomènes contradictoires. Premier phénomène contradictoire, on a à la fois traditionnellement dans le secteur de la culture un très très fort accent qui est mis sur la création, sur la conception, sur la créativité, Pierre-Michel l'a rappelé tout à l'heure, mais en même temps, toute l'économie du secteur, aujourd'hui, est très largement guidée par l'aval de la filière, à savoir les étapes de la distribution. Et c'est l'étape de la distribution, de la prescription, de l'orientation des choix, qui devient déterminant dans l'équilibre de ces industries. Et finalement, la création devient paradoxalement un peu secondaire. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on développe des efforts pour imaginer des nouveaux modèles d'affaires. Et puis finalement, d'une certaine façon, les contenus apparaissent un peu secondaires dans ce schéma-là. Et donc, à la fois un poids grandissant de la fonction de programmation et de la marque de la plateforme qui va attirer les consommateurs. On a beaucoup parlé de l'iPad récemment. On a parlé de l'iPad, on a parlé d'Apple, on a parlé de la tablette. On a très très peu parlé finalement des contenus qui allaient avoir sur cette tablette. On suppose que ça ira. Mais quand on dit finalement l'intendance suivra ou les contenus suivront, ça montre bien que finalement les contenus sont un peu secondaires par rapport à l'essentiel qui est la force d'Apple, la force de la tablette iPad. Hein, mais ce que je dis sur iPad pourrait être dit exactement pour les autres tablettes. Et donc un renforcement de ces marques, de ces intermédiaires et de ces orientateurs des choix. Alors, en conclusion, pour moi, deux grands types de conclusions. Une première série de conclusions sur les conséquences économiques de ces transformations qui qui induisent à la fois une réorganisation de quelles sont les fonctions, les compétences, les métiers, les ressources importantes dans cette nouvelle organisation des industries culturelles. Très clairement, les fonctions de distribution. Très clairement également, mais traditionnellement et presque naturellement, les fonctions de création des contenus. Mais sans doute également de plus en plus des fonctions liées au marketing, hein, la traçabilité, le contrôle du consommateur, le contrôle de la connaissance de ce qu'il veut faire, de ce qu'il aime, parce que tous les mécanismes publicitaires, et un grand nombre de gratuités des contenus, s'appuient justement sur cette traçabilité. Deuxième élément, deuxième conséquence pour moi, extrêmement important, je l'ai noté en introduction, le fait qu'aujourd'hui, le secteur est marqué par une coexistence de modèles d'affaires extrêmement variés, depuis la gratuité complète jusqu'au paiement complet, et penser à ce qui existe aujourd'hui dans la presse, où on a à peu près tout. On a de la presse gratuite en ligne, de la presse payante, on a de la presse payante qui fait payer les archives mais donne gratuitement les nouveautés, on a de la presse payante qui fait payer la nouveauté mais qui donne gratuitement les archives, et puis entre ces schémas-là, vous avez à peu près toutes les configurations possibles. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, cette évolution n'est pas simplement la trace d'un secteur qui se cherche et qui essaye de trouver le bon modèle soutenable. Ce qui est un peu le raisonnement que déploient les services publics, hein, les états généraux de la presse récemment, c'était plutôt quel va être le bon modèle pour la presse. Ce qu'on peut sans doute dire plutôt, c'est qu'il n'y aura pas un bon modèle pour la presse, mais on aura une configuration où beaucoup de modèles vont coexister et les modèles vont se transformer en permanence. D'où l'importance de la phrase que j'évoquais en exergue tout à l'heure. Comment faire en sorte pour arriver à maintenir une forme de stabilité dans un monde économique et des modes de transaction qui se déploient constamment, et comment arriver à identifier les ressources, les compétences clés qui permettent justement de survivre et de se déployer dans ce monde en bousculement complet, et donc avec des nouvelles formes de compétition, parce que la concurrence n'est plus la concurrence traditionnelle entre éditeurs de presse, par exemple, pour reprendre cet exemple-là, mais ça va être aussi une concurrence entre éditeurs de presse, mais avec des fournisseurs de tablettes, avec des opérateurs télécoms, etc. Dernier élément, des conséquences également sur les contenus culturels, parce qu'en fait, tous les contenus ne sont pas égaux. On a une partition qui s'opère de fait entre certains titres, certains contenus à très très forte attractivité, hein, qui bénéficient d'un effet podium, d'un effet star system, et puis de l'autre côté une grande masse de contenus qui ne connaissent que de très faibles consommations, qui sont sur des marchés de niche. Et un des gros enjeux aujourd'hui, c'est d'arriver à faire coexister à la fois vis-à-vis des consommateurs la permanence de cette variété des titres et des niveaux de consommation, mais également de permettre un renouvellement et un accès finalement à tous de ces contenus. On est tout à fait dans le même schéma que celui de la grande distribution alimentaire, hein, avec des problèmes de tête de gondole, de marche arrière parce que certains auteurs, certains fournisseurs de contenus sont prêts à payer le distributeur pour essayer d'apparaître un tout petit peu en avant. Donc un vrai enjeu sur comment gérer ce qu'on appelle la longue traîne, hein, donc ces contenus très faiblement diffusés par rapport au best-seller. Autre élément important, je termine, c'est finalement ce rôle central des plateformes de prescription sur comment orienter les choix du consommateur. Est-ce que c'est des orientations mécaniques à travers des moteurs de recherche, à travers des listes de best-sellers, ou est-ce que c'est des recommandations liées au contenu via des communautés de référenceurs ou de consommateurs? Comment finalement à la fois concilier la diversité de l'offre existante, la variété des contenus, mais la diversité de l'offre effectivement consommée et pas simplement existante.
Alors, merci beaucoup. Il nous reste, parce qu'on doit rendre cette salle absolument impérativement à l'ADMI, donc il nous reste quelques dizaines de minutes, un petit peu plus, pour des questions. J'imagine qu'il y en a. Je vois à la fois des étudiants et puis des non-étudiants, un public très hétéroclite. Monsieur,
Oui. Oui, bonjour. Moi, je m'interroge sur la question du soutien étatique à la création culturelle et artistique. Parce que le raisonnement en termes d'externalité, il me semble un petit peu problématique. On a vu il n'y a pas très longtemps, lors d'un précédent festival à Avignon, que quand les artistes s'étaient mis en grève, les restaurateurs avaient porté plainte contre eux. Là, on avait les externalités directes. Mais comment mesurer ces externalités, en fait, par exemple, comment mesurer l'externalité de la Tour Eiffel, par exemple, en termes de rayonnement, comment ça peut rebondir, ou comment mesurer l'impact du cinéma sur la vente de téléviseurs ou de MP3, enfin ce genre de choses, quoi. Et même peut-être de façon un peu plus générale, l'impact que peut avoir la culture sur l'industrie de façon plus générale. Je pense en particulier à des gens qui ont un travail dans lequel ils ne s'épanouissent absolument pas et où la seule façon de tenir ce boulot insupportable, c'est d'avoir le soir un film ou une activité culturelle quelconque. Comment ces externalités-là sont mesurées ?
Je peux peut-être dire un mot. C'est difficile de répondre de manière globale parce qu'en fait vous posez des questions qui sont de nature différente. Pour vous répondre très concrètement, par exemple, les études qui ont essayé de mesurer les retombées économiques du Louvre sur l'économie française faisaient l'hypothèse que visiteur du Louvre restait étranger, hein, ou en tout cas le visiteur touriste, pardon, étranger ou national, peu importe, restait une demi-journée de plus à Paris pour visiter le Louvre, et à ce moment-là, on en induisait l'ensemble des dépenses qu'il avait pu faire. Dans d'autres cas, ça va être de nature différente, mais à chaque cas va correspondre un outil plus ou moins imparfait de nature différente. Et puis, dans le dernier cas que vous évoquez, c'est le cas le plus, je dirais, le moins mesurable, hein, c'est celui où la culture apportant du bien-être permet de supporter par ailleurs le mal-être de la vie. À ma connaissance, il n'y a pas d'études spécifiques, mais c'est sans doute une vraie question.
Oui, juste rapidement. À la fois, effectivement, je confirme qu'il n'y a pas d'études très très claires sur les mesures d'impact. Je renverserai volontiers la question. Pourquoi se poser ce type de questions-là ? C'est-à-dire que, ce type de mesure est indépendant de savoir qui pose la question et pourquoi on veut le mesurer. Et dans beaucoup de cas, par rapport à ça, on est dans des situations d'incertitude radicale. Mais ce n'est pas vrai simplement pour la culture, c'est vrai aussi, je veux dire, pour les investissements à haute technologie, pour les investissements industriels. Si on veut mesurer, est-ce que c'est rentable pour une entreprise d'investir dans le haut débit, dans l'ultra haut débit par exemple, c'est un peu incertain. Ou en fonction des hypothèses qu'on va faire sur qu'est-ce qu'on attend, on peut guider plus ou moins dans un élément. Donc, par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a certains éléments d'investissement qui repose sur des choix stratégiques, des convictions qui ne sont pas simplement validables économiquement, mais que par contre on a d'autres éléments qui vont pouvoir donner lieu à des mesures classiques d'évaluation de projet, de retour sur investissement, etc. Peut-être que quelle est la contribution du Louvre à l'économie globale de la France, on est incapable de le mesurer, mais par contre, est-ce que ça vaut le coup de réaménager telle partie du loop pour faciliter la circulation, construire un parking, etc. Ça, on peut mesurer le retour économique. Donc, je pense qu'il faut rentrer un peu plus finement dans la nature des impacts pour être capable, le cas échéant, ensuite, de voir est-ce que c'est rentable ou pas. Sur l'exemple d'un festival, c'est un peu la même chose. On peut, globalement, c'est un peu difficile. Par contre, l'arrêt d'un festival a des coûts qui sont très, très nettement mesurables. Donc, sans forcément rentrer très loin dans les hypothèses d'externalité, on a des éléments d'évaluation.
Oui, pour vous donner un exemple, au Japon, où il n'y a pas d'économie de type État-providence, ils sont obsédés par l'argumentaire économique pour justifier les dépenses publiques en faveur de la culture. Et tout ça se passe dans les villes. C'est une économie de la culture qui est fondée essentiellement sur les villes. L'État fait assez peu de choses. Et un des points qui est le plus intéressant, qui d'ailleurs donne lieu à des travaux assez sophistiqués en économie, c'est est-ce que les équipements culturels et la population de professionnels de la culture, mais aussi d'autres cadres ou de professions intellectuelles supérieures, augmentent la productivité de tous les travailleurs dans une ville. Autrement dit, il y a une contribution nette de la composition sociale urbaine selon son profil sur l'intensité d'activité d'une ville en contrôlant tous les autres facteurs. Il y a deux observations qui sont faites, c'est il y a un retour sur diversité en haut avec des types de professionnels qui ont à la fois une forte valeur ajoutée, mais aussi qui apportent ces éléments-là. Donc, vous en parliez en termes de consommation, ce qu'on appelle les amenities, des satisfactions qu'on peut trouver à aller fréquenter des endroits. À la fois, c'est parce que ça correspond à un besoin de consommation, ça correspond aussi à une intensité d'échange. Et on essaie de mesurer aujourd'hui le retour sur diversité des populations présentes, mais il y a aussi un aspect un peu sombre, c'est que ces centres urbains ou ces mégalopoles ont une polarisation sociale extraordinairement violente. Donc vous n'avez pas exactement tous les bons critères du même côté.
Oui, j'aurais une question à poser, s'il
Monsieur,
vous plaît.
Monsieur Benghazi a parlé du rôle des consommateurs. Alors au-delà de la production culturelle qui est dans le cinéma, le théâtre, etc., toutes les expressions culturelles, il y a aussi la production culturelle qui est notre culture que l'on produit à travers nos produits de luxe, à travers le savoir-faire français ou d'autres pays. Et justement, dans ce savoir-faire français, vu l'imitation exceptionnelle qui en est faite à l'heure actuelle et qui souvent dévalorise le savoir-faire en question, quelles sont les sauvegardes, qu'est-ce que vous envisagez de demander dans le milieu industriel ou dans le milieu, des barrières douanières ou autres, pour que justement cette expression, c'est une expression culturelle française tout de même, et puis qui existe dans d'autres pays, quand on a un produit particulier qui a une redondance et qui est connu du monde entier, et quand on l'achète et qu'il n'a plus rien à voir avec ce qu'il était il y a 5 ans ou il y a 10 ans, qu'est-ce que vous en pensez et comment on peut préserver, protéger le savoir-faire d'un pays par rapport à la copie pâle qui en est faite?
On retombe effectivement sur les questions de propriété intellectuelle. Je suis toujours réservé sur l'érection de propriété, enfin de protection spécifique. Pourquoi ? Parce que, notamment dans le secteur culturel, c'est un secteur qui brasse énormément de contenu et qui s'alimente en permanence de contenu et réinterprétation des contenus. Les plus gros succès de cinéma, c'est Disney. Disney n'a fait que réinterpréter des œuvres du domaine public, mais depuis le tout début. Mais ce que je dis de Disney est vrai aussi de Basquiat. Basquiat, c'est aussi de la réagrégation. Donc le fait de surprotéger les contenus pose des risques importants. On le voit bien dans d'autres secteurs. Donc là, je prends des secteurs de la culture. Donc les dangers d'une surprotection, mais Françoise l'a bien dit, c'est justement de figer complètement le secteur culturel dans des formes classiques qui ne se renouvellent absolument pas. Ce qui est vrai pour la culture est vrai aussi des domaines plus élargis, des industries créatives. Dans la gastronomie se nourrit en permanence des contributions de différents pays, etc. L'Italie a essayé, Naples a essayé de protéger la pizza margherita en disant etc. Qu'est-ce qu'on protège on pourrait dire la même chose sur la gastronomie française. Qu'est-ce qu'on protège? Est-ce qu'on protège des savoir-faire? Est-ce qu'on protège des savoirs spécifiques face à des copies pâles? J'ai tendance à dire, mais c'est tout le mouvement open source, creative commons ou ce que des collègues appellent les cultural commons aujourd'hui, la meilleure protection, c'est de bouger. La meilleure protection, c'est d'être en permanence sur la création, l'innovation, le renouvellement, et que face à des copies pâles, la meilleure forme de réponse, c'est d'être constamment en avant, et c'est pas en figeant les formes qu'on le protégera le mieux. Et c'est vrai aussi dans le luxe, hein, on parle beaucoup d'Hermès actuellement, un des grands succès d'Hermès, c'est de savoir faire travailler des artisans dans tous les pays, au Japon pour pouvoir plier très très correctement les carrés, au Maroc pour le cuir, en Asie pour le métal, etc. Donc il y a cet échange permanent ne peut exister que parce qu'il y a justement une ouverture et des formes de protection qui ne sont pas trop fortes.
Bonjour, j'ai une dernière question à vous poser, s'il vous plaît. Je suis documentaliste dans un établissement scolaire. Marcel Pagnol n'est plus édité désormais. Alexandre Dumas n'est pas connu par nos jeunes lycéens de seconde, première, terminale. Alors moi, ma question, c'est est-ce que la France pourra survivre et exporter quelque chose, sachant que nos enfants ne connaissent pas Marcel Pagnol, ne connaissent pas Alexandre Dumas? Quelle pérennisation de la culture nationale française dans un monde en mondialisation?
Merci. Oui. Je vais vous répondre. Je voudrais juste ajouter un détail à la question précédente. C'est un mélange de culture d'un pays, de niveau de développement d'un pays et de respect des lois. Au Japon, je crois 80% des gens qui ont au-dessus du niveau moyen des revenus ont des sacs Hermès et des choses comme ça, Vuitton, et donc la contrefaçon n'est pas un vrai problème. Vous passez le channel pour aller en Chine, vous avez l'inverse. C'est-à-dire que le niveau de développement d'un pays, évidemment, est un boulevard pour la contrefaçon quand on veut se procurer des biens à prix réduit. Si la Chine élève son niveau de vie, elle va avoir le problème inverse parce qu'elle va avoir d'une part des créateurs locaux qui vont vouloir protéger leur production et pas simplement imiter les autres. Donc ça va renverser le jeu et peut-être qu'il y aura une incitation à ce moment-là à lutter contre la contrefaçon. Mais tant qu'on est dans une asymétrie pareille, il y a un souci évident à se faire, ce point de vue. Sur l'histoire des... En fait, vous posez deux questions. Vous posez la question de votre propre statut. Qu'est-ce qu'aujourd'hui un monde des bibliothèques dans un monde numérique? Et qu'est-ce que l'accessibilité au contenu? Je pense que Pagnol doit se retrouver de mille manières en numérique et que quand tout le monde aura un Kindle ou un iPad, la question sera résolue d'elle-même d'une certaine manière. En revanche, le problème est celui des plateformes que sont les bibliothèques. Est-ce qu'une bibliothèque, c'est une plateforme à l'ancienne qui prête des objets physiques ou c'est une plateforme numérique de demain? Ça, c'est un vrai enjeu et il est important, évidemment, parce que, et je le voyais aussi dans ces voyages à l'étranger, un des endroits les plus problématiques aujourd'hui, c'est le monde des bibliothèques qui incarnent à la fois le patrimoine et qui sont exposés massivement à la transformation de ce patrimoine. Sa dématérialisation.
Bien. Je voudrais remercier tout le monde d'avoir participé à cette table ronde et le débat continue.